Dans le premier épisode de cette série de podcasts, Laure Taboué, qui est neuroscientifique et qui enseigne l'éthique à l'Institut catholique de Paris, nous a aidé à y voir plus clair sur ce que sont les neurosciences. Elle nous a également donné quelques repères historiques. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder la question des applications concrètes de ces technologies et de ce qu'elles permettent, notamment en matière de santé. Car au fond, c'est de là que naissent les principales questions éthiques posées par les neurosciences.
De prime abord, les neurosciences sont vraiment là au départ pour voir comment fonctionne la structure, le fonctionnement, la structure du cerveau de manière physiologique, donc la structure du cerveau physiologique, mais aussi pathologique, c'est-à-dire comment le dysfonctionnement du cerveau entraîne aussi certains symptômes, certaines pathologies. Et donc aujourd'hui, les neurosciences s'insèrent vraiment dans les études des pathologies, du dysfonctionnement. Il y a vraiment des neuroscientifiques qui travaillent dans le fond pour savoir physiologiquement ce qui se passe dans le fonctionnement et sa structure. Donc, quels sont les lobes, comment ça fonctionne, comment les régions cérébrales communiquent entre elles, comment est-ce que lors de fonctions cognitives telles que l'attention, telles que la vigilance, telles que la parole, la vision, les émotions,
le sommeil,
comment ça fonctionne physiologiquement.
Et puis à côté de ça, il y a donc des neuroscientifiques.
Il y a des neuroscientifiques qui travaillent sur les dysfonctionnements pathologiques. Donc ça va de la maladie d'Alzheimer aux pathologies de Parkinson et du sommeil, ou alors le spectre autistique, le TDAH, l'épilepsie, la bipolarité ou alors schizophrénie. C'est en fait, ou l'alcool, l'addiction. Il y a énormément de pathologies qui touchent le cerveau. La raison, c'est que tout passe à un moment donné par le cerveau. Le cerveau est la boîte noire de notre corps.
Centre névralgique, c'est le cas de le dire.
C'est le centre névralgique. Tout passe à un moment donné par le système nerveux central. Lorsqu'on parle du cerveau, on parle de système nerveux central et système nerveux périphérique. Système nerveux central, c'est le cerveau dans sa boîte crânienne, qui est l'organe le plus protégé du corps humain, dans sa boîte crânienne, sous quatre couches de méninges et sous ce qu'on appelle la barrière hématoencéphalique, qui protège tout le cerveau. Mais c'est le système nerveux central, c'est aussi toute la colonne vertébrale.
Et la moelle épinière ?
C'est la moelle épinière qui est protégée par les vertèbres. Et à partir de ce moment-là, on parle du système nerveux périphérique, qui sont tous les nerfs qui partent partout au niveau du corps humain, qui font la relation entre, finalement, tous les sens aussi, et tout le fonctionnement du corps et tous les fonctionnements des organes avec le système nerveux central. Donc, il faut vraiment voir le système nerveux central et le cerveau, entre autres, qui fait partie du système nerveux central, comme quelque chose qui est vraiment partie intégrante du corps humain.
Donc, ces découvertes, ces recherches, elles ont l'objectif plutôt vertueux, a priori, de chercher des méthodes curatives, ou au moins de stopper le développement de certaines pathologies,
de les comprendre, de les comprendre, de chercher à stopper si on peut stopper, ou alors à ralentir. La maladie d'Alzheimer, c'est le cas. On peut ralentir aussi la progression en détectant de plus en plus précocement
les signes,
ce qui nous permet de prendre en charge plus rapidement et donc que les personnes se dégradent moins.
Est-ce que ça peut aller jusqu'à guérir certaines pathologies ou pas encore ?
Oui, ça peut. Alors, on ne peut pas forcément parler de guérison lorsqu'on parle d'une pathologie, d'une maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, puisque ce sont des maladies neurodégénératives qui arrivent dans la vieillesse en général. Mais il y a à la fin un peu la carotte de guérison, ou en tout cas de stopper la progression pour permettre à la personne de pouvoir continuer à vivre. Oui.
Leur tabouille, tel qu'on le décrit là, c'est plutôt louable. Donc, comment et pourquoi les questions d'éthique interviennent-elles dans cette réflexion au stade où
Parce
on en est?
Parce que lorsque on parle du fait d'aller comprendre le fonctionnement et la structure du cerveau au niveau physiologique et le dysfonctionnement pathologique du cerveau, ce qui est important et ce qui nécessite aussi de continuer vraiment toutes les recherches, et c'est vraiment important que ces recherches neuroscientifiques puissent continuer leur chemin maintenant, il y a en fait, ces recherches-là font appel à des technologies pour pouvoir aller voir finalement le fonctionnement physiologique et pathologique du cerveau. Je m'explique, pour voir vraiment le fonctionnement, il nous faut des technologies qui rentrent à l'intérieur du cerveau. Et donc l'IRM, le scanner, les électroencéphalogrammes, les EEG dont on parlait précédemment, découvertes en 1929, sont des technologies qui nous permettent de rentrer à l'intérieur du cerveau et donc de visualiser
ce qui se passe,
de l'observer. Et en fait, c'est là où ce qu'on appelle les neurotechnologies arrivent. En fait, début 2000, à peu près, on voit arriver une convergence entre ce qu'on appelle les neurosciences, donc cette discipline académique qui est faite pour travailler sur le fonctionnement et la structure du cerveau et voir son fonctionnement physiologique et pathologique, et avec une convergence entre ça, entre les neurosciences et puis tout ce qui est les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique qui commençait à poindre son nez. Elles n'étaient pas là où on en est aujourd'hui, mais dans les années 2000, on commençait à avoir une convergence qu'on appelle NBIC. C'est vraiment une miniaturisation des biotechnologies pour pouvoir s'intégrer par les nanotechnologies, pouvoir s'intégrer à l'intérieur du cerveau et voir le fonctionnement. Et donc les neurotechnologies, comme on les appelle aujourd'hui, ce sont des technologies qui permettent aux neuroscientifiques de travailler sur le fonctionnement, voir le fonctionnement physiologique et pathologique du cerveau et sa structure. Et en même temps, ce sont des technologies qui permettent d'enregistrer donc des ondes cérébrales, mais aussi toutes les données cérébrales, ce sont les ondes cérébrales, les données moléculaires, cellulaires, génétiques, anatomiques, fonctionnelles, mais elles permettent aujourd'hui d'intervenir sur le fonctionnement même du cerveau. Et donc c'est
là que ça pose question ?
Là où le pivot se fait.
Pourquoi ? Pourquoi ça pose question ? Ne pas intervenir sur le cerveau comme on interviendrait sur une jambe malade ?
Eh bien parce que, on l'a dit au début de la première partie, le cerveau est, pour beaucoup de religions, pour beaucoup de spiritualités, pour beaucoup de cultures, le siège même de la conscience, de la pensée, de la personnalité, de la personne. Il y a une part de mystère qui reste aujourd'hui, et c'est ce lieu de friction, ce lieu de tension, ce lieu de frontière sur lequel les neurotechnologies et les neurosciences s'axent aujourd'hui. Et en tant que chrétien, ça peut être aussi le lieu, du coup, de la rencontre avec le Christ, avec Dieu. Ça peut être aussi la rencontre, comme le souligne Thierry Magnin, c'est au cœur même de la matière que l'on peut voir à travers les neurotechnologies et ce que nous offre de voir les neurosciences, que cette rencontre peut se faire.
En quoi le fait d'intervenir sur le cerveau avec les technologies que vous avez décrites pourrait altérer la capacité de l'homme à faire cette rencontre, à penser, à éprouver, à ressentir?
Pour répondre à votre question, il faut juste au préalable dire que agir sur le cerveau, c'est agir de façon globale. On n'agit pas que sur une zone, on agit sur l'ensemble du cerveau lorsqu'on agit sur un lieu particulier.
Parce qu'on ne peut pas faire autrement ou parce que...
Oui, parce que le cerveau est un réseau.
D'accord.
C'est pas une commode à tiroir, c'est un ensemble qui communique avec l'ensemble. Les zones ne sont pas si délimitées que ça. Il y a effectivement des zones de la parole, les zones de la vision, certaines zones du cortex, certaines zones, les cinq lobes sont localisés, etc. Ça, c'est une réalité, mais il n'y a pas de frontière entre eux. Donc, il faut voir vraiment ce qu'on appelle un réseau de neurones informatiques. Un neurone, qui est une unité de cellules du cerveau, va communiquer avec 10 000 autres neurones par le biais des synapses, par le biais de connexions synaptiques. Et c'est un mélange de communication chimique qui va devenir électrique, puis chimique. Et c'est vraiment une fusion de diverses communications qui peuvent être contradictoires les unes avec les autres.
Donc impossible de toucher à un élément, à un point, sans altérer...
En fait,
altérer...
on rêverait finalement, les neuroscientifiques rêveraient de faire ça, finalement, d'aller toucher à une zone précise sans que ça ait une répercussion sur l'ensemble. Or, le cerveau n'est pas du tout organisé de cette manière-là. Donc en fait, ce que l'on espère finalement avec les neurotechnologies comme les implants cérébraux, lorsqu'on veut viser sur une zone précise, on sait qu'on va forcément toucher d'autres fonctions cognitives qui peuvent être la parole, la pensée, la vision, qui peuvent être la personnalité. Et donc l'affecter finalement, la personne même.
Un implant cérébral aujourd'hui, ça existe ?
Oui, ça existe.
Et ça sert à quoi, par exemple ?
Ça existe. L'implant cérébral, il est commun, par exemple, dans les pathologies du Parkinson, depuis les années 70. C'est Clinatec, c'est à Grenoble qui a été mis en place tous les implants cérébraux, la stimulation cérébrale profonde qui permet, alors c'est à boucle fermée jusqu'à présent, ou c'est un implant cérébral qui est intégré par un acte chirurgical à l'intérieur même du cerveau qui permet de modérer en fait les tremblements de la maladie du Parkinson et qui du coup est régulé via un pacemaker. C'est vraiment le système du pacemaker.
On a observé que ça peut modifier la personnalité des personnes qui ont bénéficié, je ne sais pas s'il faut le mettre avec des guillemets ou pas, le mot bénéficier,
de ces technologies. On peut le mettre en bénéficiaire parce que c'est vraiment une neurotechnologie qui permet aux malades de mieux vivre. Mais pour répondre à votre question, oui, on a certains patients ont changé d'humeur, ont changé d'émotion, ont eu des émotions différentes, de là à dire qu'ils ont changé de personnalité, ça c'est une autre chose, mais il y a eu un changement d'humeur très net chez certains.
C'est la fin du deuxième épisode de cette série de podcasts consacrée aux neurosciences. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la tentation de l'homme augmenté et du transhumanisme. Jusqu'où repousser les limites ?